Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, il est 6h30.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Soyez les bienvenus et c'est donc l'information de la nuit. Le crash du Boeing 737 qui a fait 176 morts mercredi à Téhéran. Eh bien, ce crash serait lié à un tir de missile iranien.
C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans la soirée. Annonce similaire de son homologue britannique Boris Johnson dans la nuit. Pour le ministre des Affaires étrangères canadien François-Philippe Champagne, il pourrait s'agir d'une erreur.
Nous avons des renseignements provenant de différentes sources. Ces renseignements indiquent que l'avion est abattu par un missile sol-air iranien. Il est possible que ce geste a été fait involontairement. Cette nouvelle vient confirmer la nécessité de mener une enquête approfondie dans cette affaire.
L'enquête, justement, elle débute. Marc Tédé, bonjour.
Bonjour Augustin, bonjour à tous.
D'après les premiers éléments, l'armée iranienne aurait pu confondre l'appareil civil ukrainien avec un avion de transport de troupes américains.
Ce sont en fait les images satellites de plusieurs services de renseignement, et notamment américains, qui ont permis d'observer la signature thermique caractéristique de deux missiles sol-air. Ils auraient été tirés 2 minutes après le décollage de cet avion de l'aéroport Imam Khomeini. Il pourrait s'agir de missiles de fabrication russe, Thor M1, ceux utilisés par les Iraniens. Scénario que l'Iran rejette, l'Iran qui juge ce scénario techniquement impossible. Téhéran demande d'ailleurs au Canada de lui fournir ces informations. Comme vous venez de l'entendre, les Canadiens soulignent que ce tir n'est probablement pas intentionnel. Un peu plus tôt, Donald Trump avait parlé d'erreur. Rappelons que la nuit du drame était une nuit d'extrême tension au Moyen-Orient, puisque 4 heures auparavant, l'Iran venait de lancer 22 missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains, s'exposant ainsi à une potentielle riposte américaine.
Merci Marc Tédé. Des enquêteurs américains et canadiens seront associés aux investigations.
Voilà, vous avez des images qui sont visibles à la télévision, sur les réseaux sociaux, filmées au smartphone. On le voit quand même, ce qui ressemble à un missile, et ainsi suivi d'une explosion dans le ciel de Téhéran. L'autre information de ce vendredi matin, Augustin Lefebvre, c'est le gouvernement qui dévoile le texte de la réforme des retraites, enfin les textes.
Une loi organique et une loi ordinaire, 2 projets envoyés au Conseil d'État et aux caisses de sécurité sociale. Et Émilie Vallès, il risque de ne pas plaire à la CFDT.
Le gouvernement reste droit dans ses bottes. Pas question de plier, l'âge pivot est bien inscrit dans le projet de loi. Le Premier ministre maintient donc sa mesure dès 2022, malgré les demandes répétées de Laurent Berger, de quoi susciter très certainement la colère du numéro 1 de la CFDT. Le texte précise cependant que les partenaires sociaux peuvent proposer une alternative à cette mesure d'âge. Ce sera d'ailleurs tout l'objet de la conférence de financement qui va se dessiner aujourd'hui. Au gouvernement, on indique aussi que le texte peut encore bouger sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors notamment. Des amendements seront possibles et puis beaucoup de points seront précisés dans un second temps par des ordonnances. Mais ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, eh bien, c'est que rien ne change par rapport aux grandes orientations fixées par Édouard Philippe mi-décembre dans son discours. Le projet de loi compte 64 articles et il sera examiné à l'Assemblée nationale dès le 17 février.
Émilie Vallès.
Alors, il y a bien l'âge pivot dans le texte, mais en revanche, la bande de 64 ans, elle n'y figure pas. Je vous en reparlerai dans le journal de l'économie. En tout cas, présentation du texte au Parlement, début de son examen le 17 février. C'est trop tôt, estime Gérard Larcher.
Le président du Sénat veut que le gouvernement attende la fin de la conférence de financement pour saisir le Parlement. Cette conférence de financement, elle commence à 8h30 à Matignon. Le Premier ministre va recevoir à tour de rôle les organisations syndicales à la demande de la CFDT. Pas la peine d'attendre qu'elle se termine, répond Benoît Simian, député de La République En Marche de Gironde.
Chacun y va de sa petite idée pour sortir de cette impasse, mais on voit bien que beaucoup de participants aujourd'hui aux négociations sont dans des positions de blocage. On ne peut pas discuter. C'est pourquoi je suis convaincu que la meilleure des conférences de financement, la plus légitime, c'est bien la commission des finances des représentants du peuple, qu'elle soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. C'est là que ça doit se discuter.
Benoît Simion, député LREM de Gironde.
Côté contestation, l'intersyndicale décide de 3 nouvelles journées d'action.
3 jours d'affilée, mardi, mercredi et jeudi prochain. Hier, les syndicats affirment avoir réuni 1 700 000 personnes dans toute la France, un peu plus de 450 000 selon le ministère de l'Intérieur, chiffre inférieur à celui du 17 décembre dernier. Parmi les manifestants, les avocats, ils sont entrés dans une grève dure. Sylvie, avocate au barreau de Paris, se dit prête à des actions jusqu'au retrait de la réforme.
Cette réforme est mauvaise, quoi qu'il advienne. Voilà, je suis là, je serai encore là et j'irai jusqu'au bout. Ça peut être faire renvoyer les affaires, ça peut être faire la grève du zèle. Si on décide de bloquer le système judiciaire, on a les moyens de le faire. Placer plusieurs fois les mêmes dossiers devant le tribunal, ça bloque le système. Il faut savoir arrêter une grève, mais il faut aussi savoir arrêter une réforme. La grève ne s'arrêtera pas, il faut que la réforme s'arrête.
Voilà, une avocate dans le cortège parisien au micro Radio Classique de Rémi Pfister. Aujourd'hui, trafic toujours perturbé à la SNCF. 60% des TER sont annoncés, même chose pour les Transiliens. 4 TGV sur 5 à la RATP. Toutes les lignes de métro ouvriront au moins quelques heures dans la journée.
Autre conséquence de cette grève, la pénurie de produits français en Martinique.
Oui, parce que les marchandises...
Produits frais, pardon.
C'est ça, oui. Les marchandises qui doivent arriver de métropole ne partent plus. Les dockers bloquent les ports. Sylvia Emile est responsable d'un supermarché à Fort-de-France et ses rayons sont vides.
Donc il n'y a plus, par exemple, des mentales râpées, tout ce qui est beurre, crème fraîche, presque plus de charcuterie. C'est vraiment tout l'ensemble des produits frais. Tout ce qu'on attend, c'est ce qu'on nous envoie, l'ordre de départ de certains conteneurs qui ne sont toujours pas partis du Havre. On n'a aucune information, en tout cas, à ce sujet, au niveau de nos services logistiques. On va partir sur du moins 20% de manque de chiffre d'affaires.
Des propos recueillis par Victoire Fort.
Merci Augustin Lefebvre. Vous revenez à 7h30 dans un instant sur Radio Classique, le kiosque éco.